Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Ça pourrait être une histoire vraie. Ça parle de la vie d'une famille modeste dans le sud de l'Égypte. Ça passe chaque jour après l'Iftar, à heure fixe.
Et oui, les séries télé au moment du Ramadan, toute l'Égypte les regarde au même moment. Série à l'eau de rose, à l'audience record. Et c'est justement pour ça que le pouvoir du maréchal Sissi entend bien mettre la main sur les productions. C'est ce que vous verrez dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde. Ce soir, sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, on parlera de télé là aussi. Mais en Chine, nous serons en Nouvelle-Zélande et en Espagne. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Boin, dans les coulisses des programmes, notamment pour la nouvelle commission. C'est plus important peut-être que celui ou celle qui en prendra la tête. Et puis Le Monde à l'envers, signé Isabelle Labéry. Ce soir, en Europe, là aussi, qui voit revenir la querelle du budget entre l'Europe et l'Italie. Et là-dessus, et si c'est l'Italie qui avait raison. Avant cela, nous partons pour Israël. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Un petit incident la nuit dernière, c'est comme ça que Benjamin Netanyahou a qualifié le fait qu'on va quand même revoter en Israël et que la coalition a donc été impossible, un mois et demi à peine, à essayer de trouver un terrain d'entente. Et puis donc Benjamin Netanyahou qui jette l'éponge. Peut-être que c'est d'ailleurs la première fois qu'il plie aussi fort le genou. Bonsoir Dov Alphon.
Bonsoir.
Vous êtes correspondant en France pour le journal Arets. Votre dernier bouquin, on le cite, on le redit, c'est un polar qui s'appelle L'Unité 8-200, publié chez Liana Levy. On va rejoindre Étienne.
Où un Premier ministre fictif ressemble diablement à ce Benjamin Netanyahou.
Diablement, absolument. Et on rejoindra Étienne Monin dans un instant. Alors, on ne va pas dire ce qu'il devient, le vôtre, dans votre bouquin. En revanche, est-ce qu'on commence à avoir une petite idée de ce que celui-ci deviendrait, Dov Alphon? Je disais, c'est la première fois qu'il plie aussi fort le genou, qu'il plie les deux même peut-être.
Ah oui, il joue sa survie et là, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Il a souvent dit qu'il était un magicien, c'est le surnom qu'il préfère en fait. Et là, il est un peu comme un prestigitateur qui, après son numéro sur scène, découvre qu'il a vraiment scié son assistante. Ça s'est très mal passé. et c'est un peu ça. Les correspondants politiques en France, je trouve, mes confrères, aiment beaucoup dire il y a eu un psychodrame hier à l'Assemblée, alors qu'il y a eu un débat un peu. Ouais. Et là, l'État d'Israël donc a décidé de montrer ce que c'est un vrai psychodrame politique. On a tout eu, l'heure de minuit, des députés exaspérés, et à la fin, un Premier ministre qui a dû se rendre à l'évidence, il n'a pas de coalition pour gouverner.
Mais comment il a pu ne pas le voir venir? En fait, qu'est-ce qui fait qu'il a perdu la vista? Comme il dit, la magic touch, puisque c'est lui-même qui disait ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu venir?
Je pense qu'il n'a pas vu venir les coups bas de ses partenaires qui sentent qu'il est blessé, que c'est la bête qui va peut-être d'ailleurs terminer sa course. Et donc, le coup est venu d'Avigdor Lieberman, un fidèle second. L'homme, ils ont 30 ans d'amitié ensemble, mais il sent que le Premier ministre est faible, il sent qu'il est très possible que c'était sa dernière chance.
Donc il rajoute une banderille en fait.
Voilà, et en fait il joue lui aussi un coup double. Et donc cette coalition qui était, rappelons-le, déjà assez difficile quand même. On dit souvent que Netanyahou a gagné les élections. Ce n'est pas exact. Il a eu, son parti, le Likoud, a eu 60 mandats sur les 120 avec une coalition qui, en fait, n'existait pas. Et donc, quand il a commencé à aligner les chiffres, il a découvert que la droite laïque, presque anti-religieuse, refusait d'être dans son gouvernement avec la droite ultra-religieuse.
Alors, la raison avancée par Lieberman, c'est une vieille raison, c'est un serpent de mer en Israël. L'obligation des ultra-orthodoxes à servir dans l'armée, les laïcs tiennent absolument à ce que ce soit le cas. On sait que les orthodoxes sont contre. Est-ce que c'est un pur prétexte? Parce qu'effectivement, on en parle depuis 25-30 ans, depuis toujours, j'ai l'impression. Donc est-ce que c'est un pur prétexte ou est-ce qu'il y a quand même un bout de vraie raison là-dessous?
Je pense que c'est son nouveau cheval de bataille. Avigdor Lieberman, rappelons-le, est quelqu'un qui a tous les votes des immigrants russes qui sont venus dans les années 90 et qui ne se sentent pas chez eux en Israël, entre autres à cause du fait que l'État ne qui n'est pas toujours laïque. Mm-hmm. Et eux, ils n'aiment pas ces religieux autour d'eux. Ils n'aiment pas le judaïsme orthodoxe. Et donc, c'est ça, ses électeurs. Mais soudain, il sent qu'il peut attirer à lui des électeurs laïques, presque mm-hmm. anti-religieux, qui n'ont rien à voir avec cet électorat, des jeunes, vu que Yair Lapid, qui est maintenant, qui était le grand chef de bataille de cela, est maintenant dans le parti centre.
Donc, il prépare évidemment le coup d'après.
Enfin, absolument.
C'est le principe de la politique. À votre avis, à quel moment, est-ce que c'est avant les élections, finalement, donc de manière assez perfide, ou juste après les élections, à quel moment Lieberman se dit « là, je peux appuyer, il va tomber ».
Ça se à mon passe avis, quand, il l'a vu dès qu'il a compris les résultats. Mm-hmm. Pour lui, il était impossible, si c'est ça son cheval de bataille, d'entrer dans un gouvernement qui va être ultra-religieux mm-hmm. et ultra de droite. Mm-hmm. De droite, c'est très bien pour lui, mais avec les religieux, ce serait impossible. Il serait confronté chaque jour à des décisions qui lui reviendraient en boomerang. Donc, il a tout de suite compris, il a attendu son heure, patiemment. Mm-hmm. Il y avait une semaine où il n'a pas répondu au coup de téléphone mm-hmm. du Premier ministre pendant 4 jours. Donc, c'est tout dire. Et il a très bien joué son coup. Netanyahou, ceci dit, n'a pas encore tiré sa dernière cartouche.
Alors on va y venir justement. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Fabienne.
Avant d'en venir effectivement aux cartouches qui restent quand même dans le barillet de Benjamin Netanyahou, il y a quand même beaucoup de finesse politique dans ce Lieberman, non ?
Oui, au final, c'est un personnage qui physiquement est assez rustre hein, dans sa façon de parler aussi. On a du mal à cerner sa psychologie, c'est une boîte noire, Avigdor Lieberman. Mais sur ce coup-là, il a senti des choses. Il a senti ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, la droite laïque et les ultra-orthodoxes, ben ça marche peut-être plus très bien. Ça a fonctionné depuis 2015, mais les exigences des ultra-orthodoxes ont été de plus en plus importantes. Et finalement, la gestion clientéliste de Netanyahou avec ses hommes en noir fonctionne de moins en moins bien. Il a senti ça. Il a aussi senti que son électorat était en train de le lâcher. Les russophones, ils ont changé de génération. Ce sont maintenant des Israéliens. Et il a failli prendre le couperet très 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 tôt sur ces élections. Il est passé un peu au-dessus du seuil plancher, mais les sondages l'avaient éliminé un petit peu avant le vote. Et puis, il a vu que Netanyahou s'était piégé. Il a vu qu'avec les affaires, il ne pouvait plus que compter sur ceux qui étaient prêts à le protéger en faisant passer une loi qui fait hurler ici en Israël depuis des mois, même si ça n'est encore que théorique. Donc il a compris que Netanyahou était dans un corset avec ces groupes-là autour de lui et qu'il pouvait faire monter les exigences, quitte à aller jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en gros lui planter un couteau dans le dos, en quelque sorte le faire une mutinerie de l'extérieur. Il a mordu la main du maître et c'est quelque chose du mythe qui est quelque part tombé avec ce coup-là, parce que Netanyahou jusqu'à présent c'était celui qui faisait couper les têtes. Aujourd'hui, il est rattrapé par quelqu'un d'en dessous qui a démoli un petit peu l'icône et la statue.
Étienne, vous restez avec nous, évidemment. Dov Alphon, il a un peu tué le père. Quand j'entends Étienne, c'est un peu l'idée, en fait. Il a tué le père, sauf que maintenant, il se passe quoi ? Parce que qu'est-ce qui a changé, au fond, dans la société israélienne, entre le 9 avril et maintenant ? J'imagine pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qui empêche que le 17 septembre, il se passe exactement la même chose ?
D'abord, il y a eu une chose qui va être très vite rattrapée aux dernières élections, c'est que les Palestiniens d'Israël, les Arabes israéliens, comme on aime les appeler, ont décidé de ne pas voter pour protester contre le fait que les trois partis palestiniens israéliens n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une liste commune, comme il y avait en 2015. Et donc, ils sont restés chez eux. En fin de compte, leur participation aux élections était 50% moindre qu'aux dernières élections. Là, bien sûr, il est évident que les trois partis, le parti communiste et les partis même anti-sionistes, vont se mettre d'accord. Il va y avoir une liste commune des Arabes israéliens, des Palestiniens d'Israël, et donc déjà, tout va changer, puisque 5 députés, peut-être, vont atterrir qui ne sont pas sur les 120 maintenant.
5 députés, il faut le rappeler, c'est bien le nombre de députés de Lieberman aussi, c'est à ça que ça joue une coalition.
Oui, mais ça va se jouer sur 4-5 députés. D'abord, il y a ça. Après, l'OPA du centre droit, donc de Benny Gantz, sur l'électorat de gauche, ça vous rappelle peut-être quelque chose qui se passe en France. Cette OPA qui a très bien réussi, rien ne dit que les électeurs vont voter encore une fois pour ce parti de centre, alors que peut-être ils ont un peu de remords d'avoir laissé les travaillistes sur le champ. Donc on ne sait pas.
On ne sait pas, ça s'appelait la coalition blanc-bleu à ce moment-là, celle de Benny Gantz. Donc est-ce qu'elle explose en route ?
Non, il a toutes les chances, s'il joue bien son jeu, avec ses deux partenaires, ses trois hommes déjà, dans l'électorat israélien, ça passe mal aujourd'hui. Il manque, c'est évident, une femme, donc il va y avoir, c'est sûr, un flirt très poussé avec Orly Levy, la fille de l'ancien ministre, francophone d'ailleurs, jeune, féministe, très sociale. Et je pense qu'avec ça, donc en quatre, ils peuvent très bien obtenir leur majorité.
De Belfond, vous disiez tout à l'heure que quand même, il a d'autres cartes dans sa manche, Netanyahou. Qu'est-ce qui fait qu'il peut à nouveau retourner la situation en sa faveur?
En fait, tout ceci provient du fait que son parti s'est profondément affaibli parce qu'il ne pensait qu'à la coalition des 61. Maintenant, il va essayer de redonner au Likoud même tout son aura. Il va sans doute essayer de jeter dehors des partenaires avec qui il a signé des accords pour donner plus à son parti. Et il va essayer d'être un grand parti et non pas un ex aequo avec un autre. Et là, peut-être, d'autres n'auraient pas le choix, y compris le parti du centre, que de signer un accord. Mais comme il est vraiment avec trois chefs d'accusation, peut-être un quatrième depuis ce matin, ça me semble difficile, alors que son examen, si on peut dire, est en début octobre devant l'avocat général, et les élections étant le 17 septembre, c'est vraiment, encore une fois, une course contre la montre.
Et un calendrier qui est cousu pour lui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était le cas aussi, évidemment, au moment du 9 avril.
Tout à fait.
Étienne Monin, c'est vers vous que je me retourne à nouveau depuis votre perchoir à Jérusalem. Effectivement, c'est ce qu'on disait à l'instant, les jeux sont très très loin d'être faits. Au fond, c'est ça qui rend les choses passionnantes à partir de maintenant.
Non, ce qu'il a aussi pour lui, Benjamin Netanyahou, c'est qu'il est quand même l'homme d'Israël qui représente l'État d'Israël maintenant, même si c'est le rôle du président en règle générale. Mais il occupe tout l'espace politique et sa base le dit encore aujourd'hui, même si il y a des déçus, même si sa petite musique de la victime permanente pour laquelle il faudrait se réunir, en gros, l'establishment contre moi, a quand même beaucoup tourné ces derniers mois sur la première campagne. Elle aura peut-être du mal à faire écho. Il reste quand même cette espèce de figure ici à laquelle les gens s'identifient. Il est l'égal des grands. C'est lui qui tape dans le dos de Donald Trump et puis c'est lui qui a le soutien des États-Unis. Et ça, c'est quand même un poids. Après, il faut faire cette coalition. Peut-être qu'il peut viser une coalition à minima, cette fois à 61 et non plus à 65 et essayer de faire exister des partis qu'il a vampirisés sur les dernières élections pour essayer d'avoir ce lot. Mais évidemment, rien n'est écrit à l'avance, ni ça fin politique, ni sa victoire annoncée. C'est ici, c'est Israël. Souvent, il y a un favori et une incertitude absolue.
Pour terminer là-dessus, merci Étienne de Valfond, les chefs d'accusation dont vous parliez, par exemple. Alors, il y avait effectivement cette idée qu'il était en train de se tailler aussi une loi sur mesure pour pouvoir passer comme une anguille au milieu de tout ça.
Qu'il appelle la loi française.
Voilà. qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et surtout, s'il ne gagne pas les élections du 17 septembre, est-ce que c'est alors voilà, par la case prison sans passer par la case départ, justement, directement, c'est ça l'idée?
C'est sûr que s'il n'a pas l'opportunité de faire une loi d'amnistie pour le chef d'État en service, donc la loi française, comme il l'appelle, mais qui existe aussi aux États-Unis, puisqu'on vient de l'entendre d'ailleurs. Alors évidemment, s'il n'a pas cette possibilité, avec des chefs d'accusation qui sont très lourds, avec d'autres soupçons qui arrivent à toute vitesse, avec des manifestations de plus en plus grandes chaque soir, je pense que oui, ça sera tout de suite une mise en examen, et la prison est très proche. Et ce n'est pas quelqu'un qui peut aller en prison dans son optique à lui. Il a vu Olmert, le président premier ministre, sortir de prison, affaibli, malade, maigre. Ce n'est pas pour lui, avec donc sa corruption de champagne rosé et de glace à la pistache. Ce n'est pas du tout ni lui ni sa femme. Et donc, évidemment, ce n'est pas seulement son avenir politique qu'il joue. En quelque sorte, c'est sa vie.
J'arrête une dernière chose. Jared Kushner est à Jérusalem en ce moment, donc le volet économique de ce plan de paix, dont on n'a pas vraiment vu la couleur de jusque-là, et qui est censé commencer à rentrer doucement dans ses premières négociations. Est-ce que ça a du sens, la présence de Jared Kushner là, en ce moment, à Jérusalem?
Alors, Donald Trump avait appelé ça le deal du siècle. Il semblerait que ce soit le deal du prochain siècle. ça n'a aucun sens. Un gouvernement de toute façon d'ultra-droite n'avait aucunement l'intention, à part le volet économique palestinien, c'est très possible, mais pour le volet politique...
C'est pour ça qu'il est là, Kushner, pour l'instant, pour le volet économique. Donc c'est peut-être une manière aussi de ménager la chèvre et le chou, et Trump pourra dire, regardez, on a fait ce qu'on a pu, après il y a la politique israélienne.
Je pense que Netanyahou a besoin d'un calme à la frontière sud, par exemple, à Gaza, pour le Hamas arrête de lancer ses roquettes quand il le veut, ce qui est très mauvais pour les élections de Netanyahou.
Bah oui,
et donc, par exemple, un chèque du Qatar, pourrait arranger les affaires de Netanyahou très bien. Et ça, par exemple, c'est sûr que ça peut très bien marcher, ce qui est une bonne nouvelle pour les Palestiniens, peut-être. Mais pour la paix globale, non, ça ne va pas avancer du tout.
Mais comment ça se gère, d'ailleurs, ce à quoi vous faisiez allusion à l'instant, la paix à Gaza, les problèmes en ce moment en Cisjordanie, ça se gère comment dans cette espèce d'entre-deux, dans cet entre-deux permanent, au fond, qui dure depuis les élections d'avril dernier ?
Oui, ça ne se gère pas. Bon. Ça ne se gère pas, ça se gouverne en force. Mmh. Ce sont des coups de chantage. Je te balance des roquettes sur des civils. Je te bombarde un hôpital. Et donc, les deux parties sont face à face. Et de temps en temps, soudain, ils décident une accalmie. C'est ce qui les arrange. C'est comme ça que les extrêmes se rejoignent.
Allez, donc, on aura l'occasion de se revoir d'ici là, peut-être avant le 17 septembre. Dov Alphon, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre bouquin, votre polar. Ça s'appelle L'Unité 8-200 chez Liana Lévy. Et vous le disiez tout à l'heure en antenne. Ça y est, vous l'avez vendu. Vous allez en faire une série, alors. On attend toujours avec beaucoup d'impatience les séries israéliennes.
Ben absolument, c'est le cas.
Eh ben écoutez, allez, à bientôt, merci beaucoup.
Merci.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe en Égypte ce soir devant les séries télé, tiens, justement, qui sont tellement suivies pendant le ramadan que les autorités aimeraient bien mettre le grappin sur ces productions. Sous les radars est Amélie Perry avec les Chinoises, très très intéressées aussi par la télévision et notamment la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Nous serons également en Nouvelle-Zélande. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est Angélique Boin qui a planché sur le programme de l'Europe version 2019. L'Europe, on y reste avec Le Monde à l'envers et bonsoir à vous, Isabelle Labéry.
Et bonsoir Fabienne.
Et l'Italie encore elle, alors c'est reparti pour le bras de fer sur le budget.
Mais oui, il résiste Matteo Salvini, pas question de se plier à l'orthodoxie budgétaire de Bruxelles et sa victoire aux européennes lui donne des ailes.
À tout à l'heure, autour de 18h55, Isabelle, ne bougez pas, on reste ensemble, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par la Jamaïque. Kofi est dans la playlist de France Inter. Burning.
On the street, tank top in the heat. Jeans, pants and Crocs, no socks left on me feet. Knapsack with me a beat, well pack up on the need. Stay woke, no sleep, me no little book keep. Money for me mind, but me never have a kind. Now cause me does a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy happy, see the sunshine, that's why me
come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if my try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil don't like it himself, he turn it down. So me just give him the fire and make it burning.
Sita, what become a Peter? Mommy say be doctor, granny say be preacher. Muffy be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with the talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher. Coffee pan upset a track, see me bring the heat, yeah.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It's a burn like a tire, me have a burning sun. And if we try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil don't like it himself, he turn it down. So me just give him the fire and make it burn.
Run up and down, have them a run up and down. Yeah, coffee with the dance sound. Anytime he come round.
Ça s'appelle Burning et c'est signé Kofi sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je remercie Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier, on commence, Amélie, avec une émission de télé qui a passionné hier soir les Chinois.
Il n'est pas question ici d'un concours de chant, de Miss ou d'une série à succès. Non, c'est ce programme qui est devenu le sujet le plus discuté sur le réseau social Weibo, le Twitter chinois.
Tonight, I have a special guest joining me all the way from Beijing, China, to discuss the challenges of trade between the U.S. and her home country,
Voilà, c'est un débat entre l'américaine Trish Regan, que vous entendez là, de la chaîne Fox Business, et son homologue chinoise Liu Xin, de la chaîne d'État en langue anglaise. En fait, les deux femmes avaient commencé par se quereller de manière assez véhémente hein, sur les réseaux sociaux, sur la guerre commerciale entre Washington et Pékin, ces taxes douanières pour bloquer le commerce extérieur de chacun. Une dispute devenue un échange télé d'un peu plus de 16 minutes.
Thank you, Trish, for having me. It's a great opportunity.
Et ici donc Liu Xin qui remercie Trish de l'opportunité de lui parler à elle et aux téléspectateurs de Chine et des États-Unis. Et si cela part un petit peu en brouhaha derrière, c'est certainement. Ouais, à un moment, elle s'écoute plus vraiment. C'est certainement à cause de la liaison technique. En fait, le débat va s'avérer finalement très cordial, très polissé. Les droits de douane, le géant des télécoms Huawei, le modèle économique et le rôle de l'État dans l'économie chinoise, chacune a posé ses arguments et parfois elles sont même tombées d'accord toutes les deux. Et à la fin, cette conclusion assez mémorable de l'américaine Trish Regan.
Look, I would just say as I told Chin. No one wants a trade war.
Écoutez, comme je l'ai dit à Chin, dit Trish, personne ne veut d'une guerre commerciale. Mais l'on doit réfléchir sérieusement à la prochaine étape, la meilleure possible. Voilà, c'est un petit peu dramatisé hein, pour ce débat macroéconomique, mais on n'a pas trop l'habitude.
Non.
Les médias publics chinois, eux aussi, avaient fait monter la sauce ces derniers jours. Le ministère des Affaires étrangères avait encouragé les Chinois à regarder l'émission diffusée en direct chez Fox côté américain. Il a été mis en ligne plus tard avec des extraits choisis par les médias chinois.
Un jour, vous aussi, vous parlerez à l'autre bout du monde par l'intermédiaire d'un jour dans le monde.
Ah, j'en rêve.
Alors, est-ce qu'elle en fait trop? Elle aussi, en tout cas, elle ne lâche rien en matière d'empathie.
Jacinda Ardern, la première ministre que l'on a découverte en deuil après les tueries des mosquées de Christchurch, prenant les familles dans ses bras, portant le voile pour se recueillir aux côtés des musulmans terrassés par un tel massacre.
Assalamu alaikum. Peace be upon you and peace be upon all of us.
Assalam alaikum, la paix sur vous et sur chacun d'entre nous. Voilà comment, par exemple, elle débute un discours au Parlement. Eh bien, son dernier coup d'éclat, c'est aujourd'hui l'annonce d'un budget bien-être, présenté comme une première mondiale. La chef du gouvernement veut augmenter, par exemple, les dépenses publiques en matière de santé mentale, les allocations pour les populations indigènes et les allocations également pour lutter contre la pauvreté des enfants. Il faut dire que l'économie du pays se porte très bien. Le gouvernement prévoit un excédent de près de 2 milliards d'euros pour l'exercice en cours, une croissance à 2,7%. Ça aide un peu quand même pour prôner le bien et la solidarité autour de soi.
Et lui aussi veut se battre pour chasser les vieux démons de son village.
Il s'appelle Francisco Moreno Pagador. Il vient de fermer son entreprise de maçonnerie car le 15 juin, il prend ses fonctions de maire de Guadiana del Caudillo, commune située dans le sud-ouest de l'Espagne, près du Portugal. Et sa première mesure sera de rebaptiser le nom de la ville. Voilà, il le dit à la chaîne Hoy, la première chose que je vais faire en tant que maire est de convoquer une séance plénière au cours de laquelle je proposerai deux motions pour respecter la loi. D'abord la suppression des symboles franquistes, dit-il, et puis la suppression du nom de mon village. Francisco vient de gagner en fait les municipales au nom des socialistes et de renverser l'ancien maire très attaché à l'héritage de Franco à Guadiana. Il avait d'ailleurs quitté la droite du PP, cet ancien maire, pour rejoindre Vox, le parti d'extrême droite. Guadiana del Caudillo. Le Caudillo, le général, c'est le surnom de Franco. Hein, et les plaques, les reliques, les décorations franquistes sont partout à Guadiana. Or, une loi de 2007 en Espagne oblige les maires à retirer ces symboles. La droite et beaucoup d'administrations refusent, sous prétexte que cela rouvre les blessures du passé. Le nouveau maire de Guadiana del Caudillo, lui, a décidé de supprimer cette particule. Il va consulter maintenant les habitants pour savoir si la commune s'appellera simplement Guadiana ou si l'on ajoutera une autre partie au nom. Vous avez le droit de participer, Fabienne.
Eh ben, écoutez, très bien. Guadiana des Perriers, alors.
Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup.
Bien sûr. Ouais,
j'aime bien.
M'étonne de vous.
Non, ça sonne bien, non?
Allez, à demain.
À demain.
Lundi.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mekka. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Il y a du bruit, il y a du monde. C'est en Égypte que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. L'Égypte en plein Ramadan. Et cette période, c'est aussi celle des séries télé. C'est la saison des audiences records durant tout le mois. On attend la rupture du jeûne, souvent en regardant sa série préférée. Et le Caire, Hollywood du Moyen-Orient, est un géant de cette production télé. Bonsoir Martin Roux.
Bonsoir Fabienne.
Martin, dans l'Égypte ultra verrouillée du président Al-Sisi, où les opposants au pouvoir sont traqués, les médias, les réseaux sociaux censurés, voilà qu'on s'est emparé de ces feuilletons parce qu'ils ont un poids énorme sur l'opinion publique.
ملوخية خضراء رز بالشعرية
molokhia verte,
tri
oriental, patate au four, prik.
Nadia Farahat énumère les plats qui viennent d'être engloutis, 14 bouches à nourrir ce soir pour cette institutrice et mère de famille. Tous ses enfants et petits-enfants sont là pour l'iftar, le repas de rupture du jeûne.
Nous nous réunissons pour l'iftar et toute la famille doit être là. D'habitude, chacun mange en rentrant du travail, mais pendant le ramadan, c'est différent. Avant de reprendre le jeûne, on se réunit aussi. J'aimerais que le ramadan dure toute l'année.
Les enfants chahutent sous une guirlande de fanous multicolores, ces lanternes typiques de ce mois de fête. Les parents, eux, s'installent tranquillement devant la télé restée allumée tout au long du repas.
Je regarde une série qui s'appelle « Les enfants des pauvres ».
Mohamed Salah est un fidèle de ce rendez-vous quotidien du mois de Ramadan.
Ça pourrait être une histoire vraie. Ça parle de la vie d'une famille modeste dans le sud de l'Égypte. Ça passe chaque jour après l'iftar, à heure fixe.
Comme cette famille, l'immense majorité des Égyptiens veillent tard après le dîner jusqu'au dernier repas avant la reprise du jeûne. Tout le pays vit alors au même rythme et c'est donc l'assurance d'audience record pour ces comédies légères et ces drames larmoyants, sorte de plus belle la vie à la sauce égyptienne. Dans les rues de cette petite ville du delta du Nil, les terrasses de café sont pleines à craquer, tables et chaises tournées vers les écrans installés pour l'occasion. Au même moment, au sud du Caire, entre les barres d'immeubles couleur sable et le désert, pause bien méritée sur le tournage de Kabil, le polar de Karim El Chenaoui qui signe sa première série de Ramadan.
Kabil, ala NBC Masr.
Le jeune réalisateur avale un burger attablé avec ses équipes entre deux camions de décor. À quelques jours de leur diffusion, les deux derniers épisodes sont encore en tournage.
On essaie de garder notre calme. Il fait 38 degrés en ce moment au Caire. Et on doit encore tourner des scènes d'extérieur, donc c'est vraiment intense. Les téléspectateurs sont bien plus sévères qu'à n'importe quel autre moment de l'année parce que durant ce mois, tout le monde parle des séries.
Cette saison, pourtant, seule une vingtaine de séries ont été produites contre plus du double l'an passé. Une société de production affiliée au service de renseignement a porté à l'écran près de 80% d'entre elles. À travers cette compagnie et ses chaînes de télévision, le régime s'est ainsi constitué un monopole allant de la production à la distribution. Tout puissant, il contrôle désormais les budgets des séries et étend ainsi son emprise sur leur contenu. Victime de cette compétition déloyale, le producteur Amr Khattab a dû jeter l'éponge cette année.
La plus grosse société, celle qui produit le plus de séries, c'est elle qui dirige le marché. Avant que les tournages commencent, ils ont réuni les scénaristes et les réalisateurs et ils leur ont dit de retourner vers une morale et des valeurs traditionnelles. Bien sûr, la censure existe, quoi qu'il en soit en Égypte. On ne peut pas parler en mal de la police, de l'armée, de la religion ou parler de sexe. Mais c'est la première fois que de telles réunions ont lieu, de manière aussi directe.
Une vraie mainmise de l'État sur la production télévisuelle, sur les médias et sur le cinéma.
Maître du cinéma égyptien, Yosri Nasrallah fait des films depuis 30 ans. Toujours actif, cet ancien assistant du réalisateur Youssef Chahine a été l'un des piliers de la nouvelle vague égyptienne dans les années 80. Selon lui, il s'agit bien d'une volonté de l'État de contrôler l'opinion publique.
Reproduire les conventions sociales, ce qu'on appelle les us et les coutumes égyptiennes, le vrai égyptien, et tout ça, c'est des termes qui sont très très répressifs, quoi. Il y a une idée comme ça, un peu imbécile, qui est en train de les motiver à tous, c'est l'idée de vouloir, par le cinéma et par les séries télé, remonter le moral des Égyptiens. Mais je pense pas que le cinéma puisse faire ça, quoi.
Dans le centre de la capitale, les tables en plastique débordent jusqu'au milieu des rues. Rendez-vous nocturne d'une jeunesse libérale et souvent bohème. Les écrans diffusent ici aussi des séries en boucle, mais Ahmed Salah ne regarde que d'un œil distrait. Ce jeune trentenaire a décroché cette année des feuilletons du Ramadan.
Ces séries montrent l'inverse de ce qu'est la société en réalité. C'est dépassé. Ces histoires familiales autour du père et de la mère. D'après ce que je vois, les familles égyptiennes sont éclatées. Mais ce n'est pas du tout l'image de ce qu'on a à l'écran. Mais si je regarde des séries sur Netflix, par exemple, les sujets sont complètement différents. Regarde Game of Thrones. Ça parle de sujets comme la politique, la prostitution ou encore la religion. Mais ici, non, nous n'avons pas la même sincérité qui nous permettrait de dire ce que l'on veut dans les films et dans les séries.
Pour tenter d'endiguer l'influence grandissante des plateformes en ligne, les autorités ont bloqué au début du Ramadan plusieurs sites de téléchargement. Un obstacle toutefois bien simple à contourner pour une jeunesse familière des ruses d'Internet et surtout loin d'être dupe du scénario qu'on tente de lui imposer.
Martin Roux, devant la télé en Égypte pour Un jour dans le monde, merci beaucoup. Allez, voici les Fleet Foxes, Helplessness Blues sur France Inter.
I was raised up believing I was somehow unique, like a snowflake, distinct among snowflakes, unique in each way you can see. And now after some thinking, I'd say I'd rather be a functioning cog in some great machinery, serving something beyond me. But I don't know what that will be. I'll get back to you someday. Soon you will see. What's my station? Oh, just tell me what I should do. I don't need to be kind to the armies of night that will do such injustice to you. Or bow down and be grateful and say, sure, take all that you see to the men who move on me in dimly lit halls and determine my future for me.
Le Helplessness Blues des Fleetwood Foxes sur France Inter.
Je suis venu vous parler de
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Géniale.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est le jeudi dans Un jour dans le monde avec Angélique Boin. Bonsoir Angélique.
Bonsoir.
Angélique, 4 jours après les élections européennes maintenant, le soufflet chez vous n'est pas retombé. Et ce qui se joue, ce qui se jouera dans les semaines qui viennent, c'est donc l'attribution, certes, des postes clés, mais c'est bien plus que ça.
Ah oui, on a beaucoup parlé de la guéguerre franco-allemande sur le nom du prochain président de la Commission. C'est vrai que pour incarner Monsieur ou Madame Europe dans le monde, il faut un minimum de personnalité. Là-dessus, tout le monde est d'accord, hein, même Angela Merkel qui pourtant continue. Mais cela va-t-il durer à soutenir Manfred Weber? Mais si, ce qui se joue, ce n'est pas le nom, c'est le fond. Si Manfred Weber, l'Allemand de droite, qui récupère le poste, si c'est lui, je ne suis pas sûre, par exemple, que la défense du climat, quoi qu'il en ait dit le soir des élections, soit dans ses grandes priorités. Il met par exemple en avant dans son programme la sécurité des frontières. Si c'est Frans Timmermans, le social-démocrate néerlandais, on parlera plus, sans aucun doute, d'écologie, mais la lutte contre l'évasion fiscale figure également dans ses priorités. Et puis, au titre de vice-président de la Commission, eh bien, on lui doit depuis 5 ans le coup d'accélérateur dans la défense de l'état de droit en Europe. Au centre, Emmanuel Macron et ses alliés libéraux veulent une personnalité qui pourrait refonder l'Europe, donc dynamique, qui veut bouger les choses. L'écologie, la justice sociale sont à leur menu, mais aussi une politique industrielle européenne plus offensive. Enfin, Enfin, les Verts, qui ne prétendent pas à ce poste, ont clairement dit de leur côté qu'ils voteraient contre un ou une présidente qui ne s'engagerait pas clairement sur la réduction de notre empreinte écologique et la réduction des inégalités. Or, vous le savez, contrairement à 2014, la droite et la gauche ne peuvent plus valider seules cette nomination, d'où les tractations actuelles, non pas sur un nom, mais sur un programme de gouvernement qui conviendrait soit à une coalition à trois, droite-gauche avec les Verts, ou droite-gauche avec les centristes, soit à une coalition à quatre, là où le président de la Commission devra impulser les réformes définies préalablement par les familles politiques présentes donc au Parlement, mais aussi, et c'est là que ça se complique, par les dirigeants des membres de l'Union européenne qui se sont vus, vous le savez, jeudi soir. Mmh. On va donc assister bientôt, ça a commencé, hein, à trois négociations parallèles pour définir cet agenda politique à venir. L'une au sein du Parlement, l'autre entre les dirigeants des pays membres qui ont déjà nommé en leur sein six négociateurs, hein, jeudi soir, deux par grande famille politique. Et puis ensuite, on va échanger entre ces deux institutions pour trouver un compromis et le nom du futur monsieur ou madame Europe. On en a pour quelques semaines. L'objectif, c'est d'être OK tout le monde lors du prochain sommet du 20 et 21 juin.
Alors, quelques semaines, hein, comme vous dites, mais voilà qui est clair, une réserve quand même, Angélique. Il n'y a pas que ce poste-clé-là à pourvoir et ce nom ferait partie d'une sorte de paquet plus large, en fait.
Oui, alors même si plusieurs sources européennes indiquent qu'on va partir de ce nom, hein, pour choisir les autres, tout en respectant tout un tas d'équilibres, il se peut qu'entre deux profils, on choisisse celui ou celle qui permet de mieux ficeler ce paquet. C'est très bruxellois, hein, de parler de paquet. On a le paquet énergie, voilà donc le paquet des nominations. Et là encore, ne nous focalisons pas sur des noms. Ce qui se joue, ce sont les équilibres du pouvoir au sein des 28 États membres. Avant-hier, par exemple, en marge du sommet européen, quatre dirigeants des pays de l'Est, hein, du groupe de Visegrad, se sont vus et ils réclame l'un des postes clés à pourvoir. Il y a la Commission, le Conseil, le Parlement et le poste de chef de la diplomatie européenne. La BCE a été mise un peu à part, hein, dans les négociations. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'était le Polonais Donald Tusk, président du Conseil qui représentait l'Est de l'Europe. Mais il faut aussi un représentant d'un grand et d'un pays. Et puis, il faut respecter le choix des urnes, hein. Il faut effectivement que les centristes, qui sont devenus la troisième force du Parlement, soient bien entendu représentés quelque part.
Alors dans ce paquet, comme vous dites, Angélique, enfin comme on dit à Bruxelles, il y aura une nouveauté, l'Union se mettrait à la parité.
Oui, jeudi soir, le président du Conseil, Donald Tusk, a explicitement parlé de parité homme-femme et ça complique l'équation, mais voilà donc un nouveau domaine dans lequel l'Union entrerait donc dans le 21e siècle.
Eh ben écoutez, il serait peut-être temps, en effet, merci beaucoup Angélique Boin, l'Europe qu'on aime ou qu'on quitte, c'est tous les jeudis dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Allez, le monde à l'envers avec Isabelle Labéry ce soir. Isabelle, un nouveau bras de fer s'annonce. On va rester en Europe entre Rome et Bruxelles, justement, sur la question du budget italien. Visiblement, il est toujours difficile, voire impossible pour la coalition au pouvoir de rentrer dans les clous. Le déficit et la dette explosent, mais vous dites que dans cette affaire, Rome a peut-être de bonnes raisons de tenir tête à Bruxelles.
Oui, vous vous souvenez, Fabienne, de cette épreuve de force l'an dernier entre les plus latins des Européens et la plus orthodoxe des institutions. C'était la première fois que la Commission retoquait un budget national, trop de dérapages pour financer des réformes sociales. Eh bien, on est reparti pour un tour. Hier, la Commission a rouvert les hostilités en envoyant à Rome une lettre demandant des clarifications sur la détérioration de ses finances publiques. Et mercredi, eh bien, elle devrait lancer une procédure pour déficit excessif. Pour l'Italie, le risque, c'est de se voir amputer de 2% de son PIB, soit environ 3,5 milliards d'euros, bloqués en attendant que les choses aillent mieux.
Mais alors justement, si j'ai bien compris, l'an dernier, on avait trouvé une sorte de compromis pour éviter d'en arriver là. Donc du coup, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas de nouveau, si ?
Alors, Rome avait effectivement accepté de revoir son projet de budget pour 2019, mais depuis, le pays est entré en récession et la dure réalité des chiffres s'est imposée au gouvernement. Impossible dans ces conditions de tenir ses engagements. Ce n'est qu'une demi-surprise, mais d'après les dernières prévisions de la Commission, le déficit italien sera de 2,5% cette année, 3,5% l'an prochain. La dette surtout atteint un niveau record, plus de 133% du PIB pour cette année. De quoi mettre en danger à la fois l'Italie, troisième économie de l'Union européenne, mais aussi la zone euro dans son ensemble.
Sauf que Matteo Salvini persiste et signe.
Oui, et c'est tout à fait logique, ça peut se comprendre. Le populiste patron de la Ligue est sorti auréolé de l'écrasante victoire de son parti aux européennes. 34% des voix et les 5 étoiles. Ses partenaires de la coalition se sont, eux, fait laminer. D'ailleurs, Luigi Di Maio remet ce soir son mandat en jeu devant les militants. Matteo Salvini a donc toute latitude désormais pour faire passer ses réformes au nom de la souveraineté qu'il défend. Et il n'a pas tort de dire que ce succès lui donne un plein mandat pour renégocier les règles budgétaires de l'Union. Il est donc prêt à dépenser encore 30 milliards pour créer un impôt unique et créer un choc fiscal qui relancerait le pays. Thérapie qui laisse les économistes sceptiques. Mais quand les gouvernements du Nord exigent une stricte application de la discipline budgétaire, le leader d'extrême droite dénonce la perspective purement financière des eurocrates et répond qu'il y a un traitement de poids de mesure avec d'autres pays, notamment la France, qui flirte elle aussi avec les critères de convergence économique imposés en 92. « Toute mon énergie, dit-il, sera utilisée pour changer ces vieilles règles » et c'est aussi ce que lui demandent ses électeurs.
Donc il a raison.
Oui, sur le plan de la politique intérieure, il a raison. Le problème, c'est qu'il renvoie la responsabilité de la crise sur les autorités européennes qui, elles, non plus ne se laisseront pas faire. D'ailleurs, Rome a signé un accord avec Bruxelles l'an dernier et si les finances publiques italiennes ne sont pas en mesure de dégager assez de ressources pour faire diminuer le déficit, eh bien il faudra augmenter la TVA. Ce serait un camouflet pour Salvini, droit dans ses bottes et de plus en plus en froid avec ses ministres qui ne partagent plus son optimisme triomphant. De toute façon, Bruxelles ou Rome, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Regardez ce qui s'est passé en 2015 avec la Grèce, qui a été la première à vouloir faire exploser le carcan européen. Le Premier ministre Alexis Tsipras a fini par capituler face aux demandes de la Troïka. Son ministre des Finances, l'iconoclaste Yanis Varoufakis, a lui dû laisser sa place à des profils plus dociles. Eh bien, c'est exactement ce qui pourrait se produire en Italie. Le quotidien La Stampa évoque ce matin la possibilité d'élections anticipées dès le mois de septembre. Une façon de remodeler le gouvernement pour dessiner une coalition un peu plus stable et un peu plus raisonnable, capable d'approuver un budget 2020 un peu plus raisonnable. Matteo Salvini donc a raison, mais ça ne sera peut-être pas pour très longtemps.
Isabelle Labéry et Le Monde à l'envers dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Isabelle, le 18-20. La suite, c'est le téléphone sonne comme tous les soirs. Juste avant, il y a le journal présenté par Pierre Veil ce soir. Ne bougez pas et merci de passer la soirée avec nous.